Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes à Marrakech à l'occasion de la 22e conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est déroulée ici pendant deux semaines. Les représentants des 193 pays ont avancé sur un calendrier pour appliquer l'accord de Paris. Plus de 80 chefs d'État ont fait le déplacement, des dizaines de multinationales et de villes ont pris des engagements formidables. Mais comment connecter cette dynamique avec les victimes des changements climatiques qui sont de plus en plus nombreuses, qu'elles vivent dans les petites îles du Pacifique ou dans les zones arides du continent africain? Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Et quelles vont être les conséquences de ce changement de direction vers une économie sans carbone pour chacun d'entre nous? On en parle tout de suite.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour Anne-Cécile.
Nous sommes dans un riad de la Médina à Marrakech. C'est là que nous avons décidé de nous retrouver pour parler d'un travail qui vous semblait essentiel à faire autour de cette COP22. De quoi s'agit-il ?
Cette COP22 est très différente des précédentes. On a été pendant 15 ans à chercher à réunir la communauté humaine des États après le départ de George Bush en 2001 du protocole de Kyoto. Ça a été réussi avec l'accord de Paris l'année dernière et donc ça a conclu 15 années pendant lesquelles il fallait remettre l'ensemble des pays dans ce destin commun qui est celui de notre planète. Ce travail est fini. L'accord de Paris, il faut maintenant le mettre dans un coffre-fort et le garder bien précieux et ne pas le rouvrir. Par contre, c'est une nouvelle période qui s'annonce. Cette nouvelle période, c'est celle de la mise en application de l'accord de Paris à travers les entreprises, bien sûr les États, les grandes compagnies, à travers les territoires, les villes, les agriculteurs, l'ensemble de la société civile. Tout ce monde-là doit se mettre en mouvement. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans le cadre de la préparation là à Marrakech, les coalitions. Mais il nous a semblé qu'il manquait un volet totalement essentiel qu'on a appelé la COP des familles. C'est-à-dire comment, de cette trajectoire considérable que va connaître l'humanité dans les 40 années qui viennent, avec des grands changements, on va sortir des combustibles fossiles, on va devoir s'adapter au changement climatique, etc. Comment ça se vit dans les différents territoires? Et donc, on a voulu essayer de comprendre les trajectoires de vie. Parce qu'il n'y a pas un Africain moyen, il n'y a pas un Marocain moyen, il n'y a pas un Français moyen, il y a des situations très différentes d'une personne à l'autre. Et donc, on a fait cet exercice d'essayer de rendre ça perceptible, immersif pour les gens qui vont décider finalement de la réussite de cet accord de Paris. Parce que l'accord de Paris, il ne se fera pas sans les gens, il se fera qu'avec les gens.
Vous avez travaillé sur combien de pays et sur combien de profils à peu près ?
On est actuellement sur 10 pays, France, Allemagne, États-Unis, Chine, Inde, Pérou, Sénégal, Algérie, et là maintenant on rajoute Maroc et Tunisie. Alors on est sur 6 à 12 familles par pays pour pouvoir refléter des différences d'âge, des différences de revenus, des grosses différences de territoire entre la campagne et la ville, c'est très très différent. Et donc, d'essayer de se mettre dans des situations avec des personnes à qui on donne des prénoms et à qui on fait faire des évolutions de vie, mais liées à leurs conditions spécifiques. C'est-à-dire, chaque personne a des marges de manœuvre différentes. Et donc, on doit identifier là où une personne peut bouger, une famille peut changer, et donc d'inclure ça dans un récit global, oui.
Ça donne des récits très personnels.
Ça donne des récits très personnels. On essaye donc de travailler sur les données et les réalités des pays et donc l'habitat, le mode d'agriculture, l'accès ou pas aux ressources en eau, la vulnérabilité ou non au changement climatique, les ressources énergétiques qui existent dans le pays, les modes de transport qui sont accessibles. Donc on brasse tout ça et on fait donc des portraits et donc on utilise dans chaque pays une personne qu'on qualifie notre profile. C'est quelqu'un qui respire son pays et qui sait transcrire dans une mise en récit l'ensemble des subtilités culturelles, professionnelles, les relations à l'intérieur de la famille, notamment les relations hommes-femmes, je dirais les politiques publiques qui sont disponibles et tout ça en fonction des conditions de revenus. Derrière, on a une machine de calcul qui permet de calculer des bilans de consommation d'énergie et d'émissions spécifiquement pour chacune des familles. Et donc, on arrive à voir quelle est sa trajectoire 2010, 2030, qui est l'horizon des contributions des pays dans le cadre de l'accord de Paris, et puis 2050, qui est l'horizon pour lequel les scientifiques nous disent qu'il faudra avoir fait le nécessaire pour stabiliser le climat en dessous d'un réchauffement de 2 degrés. Donc, on a cette progression temporelle et qui débouche derrière sur une mise en récit pour que chaque personne puisse comprendre exactement les réalités qui sont les siennes ou qui sont celles d'un pays totalement différent et pouvoir faire un récit qui est sur le mode du jeu. Une personne qui parle de son itinéraire de vie entre 2010 et 2050.
Comme nous sommes à Marrakech, priorité au Maroc, donc rendez-vous dans le RIF en 2050.
Quand on dit la Terre, on pense souvent à la planète. Moi, j'entends la Terre sous nos pieds, le sol que je travaille avec mes mains. Tout autour de moi, c'est mon bureau, le massif du RIF. Là, en face, c'est mes dossiers, les parcelles que nous cultivons avec ma famille. La lampe, c'est le soleil. Et ma hiérarchie, c'est la nature. Chaque année, elle nous accorde des ressources, plus ou moins d'eau, de la lumière, de la vie dans le sol. Mais que faisons-nous de ces ressources? C'est la question de ces dernières 40 années, depuis les années 2000. On a gardé une photo de mes enfants, petits. Derrière eux, on voit encore les forêts. À partir de 2010, ces pentes-là ont été mises en culture. Fini la forêt. Alors, l'eau a ruisselé plus vite, érodé, appauvri la terre, est moins pénétré dans le sol pour remplir les nappes phréatiques. Avec les problèmes du climat mondial, les sécheresses augmentées. Dans les mêmes années, on a planté des cultures toujours plus gourmandes en eau. On pouvait se douter que ça poserait problème. On les a plantées quand même. Les gens qui ont des puits se trouvaient à sec. Les puits, c'est la survie de la famille. Nous résistons moins à la soif que mesdames les plantes. Il y avait des coupures d'eau quotidiennes dans certains villages. Nous nous étions assoiffés nous-mêmes. Quand il faisait de plus en plus chaud, nous avons cru désespérés. Pourtant, nous sommes endurants. Le passé l'a prouvé. Heureusement, nous ne sommes pas stupides. Pas complètement. Nous avons réagi. D'abord, il y avait l'électrification. Avec Internet, on trouvait des informations pour comprendre ce qui nous arrivait. On a aussi pu faire du tourisme rural. Tout d'un coup, des gens trouvaient notre gîte sur leur téléphone. On acceptait leurs réservations sur notre téléphone. Ça faisait un autre revenu. Plusieurs fois, on a eu des touristes agronomes de métier. Les contacts ont été fertiles. Avec l'association du village, on s'est organisé en coopérative entre agriculteurs. Là, on a amélioré nos équipements. Le plan Maroc Vert nous a aidés. L'irrigation a beaucoup fait aussi. J'ai récupéré une ancienne éolienne de pompage. Avec mes voisins, on a appris à l'entretenir ensemble. On a dû s'accorder sur qui capte quelle eau. Ça a pris du temps. Cela demande bienveillance et clairvoyance à la fois. Il a fallu d'autres cultures moins gourmandes en eau. Certains ont testé de nouvelles techniques, l'agroécologie, la permaculture. On avait entendu parler du village de Brachua. Des gens ont fait des essais dans leur coin. On a vu qu'on obtenait de bons résultats, avec très peu d'eau. Ça s'est répandu de ferme en ferme. Vers 2025, de premiers puits se sont ré-remplis. Ils ressuscitaient. Vers 2040, on était sortis d'affaires. On avait assez pour construire une nouvelle maison, plus grande. Imaginez, chacun de mes enfants y a son appartement pour sa famille, avec cuisine équipée. Vous savez, je n'ai pas choisi vraiment ce métier. C'est celui de mes ancêtres depuis toujours. Mais j'ai appris à l'aimer, parce que chaque génération peut le faire évoluer. Mes trois enfants sont ingénieurs, enseignants et horticulteurs. Ils feront évoluer tout ça. Et moi, ma génération, nous avons fait un superbe travail d'évolution du métier. Nous avons partagé nos solutions, appris de nos erreurs. Ça aussi, notre grande patronne de la nature nous l'a enseigné. C'est le col de la vie. Et vous savez quelle autre technologie a été la plus précieuse? C'est notre solidarité, notre sens de communauté, le respect. Une fois de plus, ça nous a sauvé la vie. Quand je revois la photo de 2010, je peux dire que ça nous a vraiment embelli la vie. Les générations qui arrivent garderont-elles le vrai caractère des habitants du RIF? Je ne sais pas. Mais si je peux témoigner ainsi avec le sourire, c'est que l'intelligence l'a emporté. Alors je dis merci. Merci pour les enfants qui n'ont pas trop souffert de nos bêtises et qu'on entend encore courir dehors et crier et rire. Merci.
Pierre Radan, cet agriculteur du RIF, montre à quel point l'enjeu agricole va être important dans les décennies qui viennent.
Oui, c'est un problème qui touche toute l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, voit sa population fortement augmenter et ses ressources agricoles diminuer et l'accès aux ressources en eau diminuer. Donc derrière la question du changement climatique, il y a une très grosse question sociale. C'est l'avenir des gens. Et encore une fois, si on ne résout pas cette question-là, eh bien ces gens-là, on va les obliger à quitter leur terre, à abandonner l'ensemble de leur vie, à aller s'agglutiner dans des villes et peut-être monter dans des rafios pour aller en Europe. Donc c'est une question essentielle pour l'humanité.
En France, qu'est-ce que ça donne? Rendez-vous à Paris en 2050.
Moi, c'est Katia. Et ma fille, c'est Shania. Entre elle et moi, c'est fort. Dans la vie, on a dû se débrouiller seul. Ça soude, ça. On est des alliés. Dans les années 2010, quand le changement climatique est devenu un sujet, on s'est regardé. On n'avait pas de quoi pour changer notre consommation. Ça nous a plutôt inquiété que les prix augmentent, tout ça. Moi, il faut quand même savoir que toute la journée, je cours. Je suis infirmière de métier et ça gagne pas des fortunes, non. On achetait à manger discount, l'électroménager, ben, c'était du pas cher, hein, qui tombe en panne bien vite. Et la facture du chauffage, ben, il fallait bien se chauffer. On avait encore une voiture. Et c'est la première chose qui a changé, je me rappelle. On l'a vendue et on l'a pas remplacée. Shania, elle, elle voulait faire biologiste. Alors l'alimentation, tout ça, ça lui parlait. Du coup, tac, elle est devenue végétarienne. Et au bout de quelques années, ben moi j'avais l'air un peu maligne avec mon budget viande. Et elle, en pleine forme, en face de moi. Alors, ben j'ai basculé aussi. Mais attention, hein, flexitarienne seulement. Je fais encore des petites entorses. Et d'ailleurs, ben, ça va faire 30 ans. 30 ans quand même. Ah ouais, déjà. Bref, on s'est remis à faire plus de cuisine nous-mêmes, pas du pré-cuisiné, des bons petits plats, meilleurs et moins chers, autant d'économiser. On pouvait même acheter bio. Tiens, ça nous a aidés en fait. De fil en aiguille, vers 2020, je dirais, tout le monde s'est mis aussi à tout se prêter. On se louait les voitures, les logements, les appareils électriques. Ça avait commencé avant 2020, en fait. Au début, on appelait ça l'économie qui partage. Et ensuite, ben, on n'appelait plus ça du tout, c'était devenu comme ça. Et moi, la débrouille, je sais faire. Et même, j'aime bien. Des fois, je cuisinais plus pour en vendre sur Internet. Et des fois, l'inverse. J'achetais à ma voisine pour gagner du temps. Mon robot de cuisine, par exemple, il doit avoir 15 ans. Il date de 2025, quelque chose comme ça. Eh ben, je viens de le faire réparer contre un tagine, dont j'ai le secret, hein. Et il est reparti pour 5 ans. Bref, on s'entraide. C'est mon côté infirmière. Tout le monde y gagne, ça rend heureux. Après, il y avait toujours la question du chauffage. Ben là, c'est simple. On a eu de l'aide. La ville, les pouvoirs publics, on a eu des conseils, des subventions. Il y a eu l'isolation, puis la domotique, les petits boîtiers là qui clignotent. Et puis, eh ben, on a appris à baisser la température. Non mais tant mieux, parce qu'avant c'était surchauffé. On ouvrait les fenêtres en hiver. On a réappris à mettre des pulls, quoi. Puis, ce qui a été vraiment très différent, c'est quand il y a eu les panneaux solaires. Aujourd'hui, on produit 50% de notre énergie. Et on a le plus gros potager urbain de la ville sur nos toits. Je pense que c'est le plus gros. Oui, voilà. Tous les restes alimentaires, on les composte et ça fait mieux pousser ce qu'on mangera ensuite. Et ça fera des restes et on les compostera, etc. Et vous savez quoi? L'animatrice de ce potager, eh bien, avec ma tchatch, c'est moi. Et oui. Et tout le monde dans les rues autour apprécie nos paniers de fruits et de légumes pas trop chers. Et on sait d'où ils viennent au moins et comment ils sont cultivés. Ça va bien pour nous, notre quartier. Mieux qu'en 2010, ça c'est sûr. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Il y a longtemps, il y avait eu un bouquin qui s'appelait « Jamais sans ma fille ». C'était une mère qui se battait pour sauver sa fille. Moi, c'était un peu pareil. Il fallait qu'on arrive à s'adapter à notre temps. Et puis, c'est pour ses enfants à elle, Shania. Je suis fière de nous. Je peux lui dire, on l'a fait ma fille, on l'a fait pour le climat. On sait que c'est pas gagné, mais on va continuer puisqu'on en profite. C'est ensemble qu'on y est arrivé, c'est ensemble qu'on continue. Ensemble, elle et moi, et aussi les gens tout autour, tout le quartier on peut dire. Et puis, c'est une évolution mondiale, plein de gens s'y sont mis. C'est comme ça dans la vie, ensemble tout est possible. Et oui, ça, c'est une infirmière qui vous le dit.
Pierre Radin, avec l'exemple de cette infirmière parisienne, on voit bien que les vies vont changer.
Les vies vont changer et bien évidemment, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est la dimension sociale dans tout ça. Parce que la question du changement climatique est toujours abordée d'un point de vue technique. On parle très très peu des gens. On parle aussi très très peu des structures de la société. Et on a donc une présentation qui est une présentation très froide. Or, la réalité du monde, c'est l'inverse. La réalité du monde, c'est que si on n'a pas une promesse pour chaque personne, ça ne marchera pas. Et donc là, on a pris une famille, une femme monoparentale, on sait que c'est des situations difficiles, avec un revenu limité. Et donc comment cette femme va pouvoir améliorer ses conditions de vie en bénéficiant aussi de l'apport de la société tout entière, par exemple un logement refait, des transports collectifs qui fonctionnent mieux. Et puis donc à ce moment-là, ouvrir des horizons aux personnes et encore une fois, tenir nos engagements collectifs.
Et vous avez aussi dressé des portraits d'Africains.
Oui, oui, on a des portraits d'Africains, par exemple. On a pris une famille donc à Pikin, qui est un bidonville d'un million d'habitants près de Dakar, avec donc une grand-mère et puis une mère qui est seule, et puis qui va se mettre dans une situation où, eh bien finalement, son quartier va être fait. On va pas les faire déguerpir, comme on dit là-bas. C'est-à-dire, on va pas les chasser pour les faire occuper un bidonville à 10, 15, 30 kilomètres plus loin pour faire place à un nouveau quartier qui sera habité par des gens qui n'ont rien à voir avec eux. Et là, on est dans une situation au Sénégal où il y a eu des programmes où ont été associés les gens des bidonvilles à la fabrication des logements pour pouvoir que ce soit les mêmes personnes qui restent. Parce que la richesse d'un quartier, c'est pas seulement la beauté des bâtiments, c'est la beauté des relations sociales entre les personnes. Et donc l'idée, c'est qu'il fallait protéger la seule chose que les gens avaient, c'est-à-dire la relation de solidarité, la relation sociale avec les gens de leur quartier. Et donc on a gardé les relations sociales et puis on a amélioré les murs autour. Et donc c'est ça qu'il faut avoir comme futur pour les gens des bidonvilles, de l'ensemble des pays africains. Parce qu'encore une fois, l'Afrique a encore une croissance démographique très forte. Les gens vont vers les villes parce que c'est là où ils pensent qu'ils vont peut-être avoir de meilleures conditions de vie. Et donc, il faut éviter qu'ils soient dans des bidonvilles et qu'ils y restent dans des mauvaises conditions.
Est-ce que vous pensez qu'en diffusant ces profils, c'est un moyen de reconnecter un peu la population avec les négociations climatiques qui sont si éloignées de notre quotidien ?
Oui, bien sûr. Mais au-delà de cela, ce qui ressort de ce travail-là, c'est une idée. Cette idée, c'est que chaque personne a des marges de manœuvre qui lui sont propres. Quelqu'un qui est en ville pourra plus facilement utiliser les transports collectifs. Quelqu'un qui est en rural pourra plus facilement développer les énergies renouvelables. Et donc, l'apport, c'est chercher dans la vie de chacun, dans la réalité de ses conditions, quelle est la marge de manœuvre qu'il va pouvoir utiliser. Ne pas lui imposer des choses qui sont hors de sa portée. D'essayer d'identifier les forces dans la vie de chacun qui vont permettre des changements. Et là, vous voyez qu'on a une image de l'humanité qui est très très différente de celle qu'on a souvent dans les discours politiques.
Bon, mais Pierre, je vais vous laisser dans votre riade réfléchir à votre marge de progression. Et moi, je vais retourner dans les rues de Marrakech, réfléchir à la mienne.
Très bien, oui. Ben, on a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer.